VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 16 décembre 2015. À la une ce soir.
Réaction à Bangui contre un mouvement de partition de la Centrafrique.
Liberté !
Scandant la liberté, les manifestants menacent de se mesurer à ces hommes en armes si les forces internationales ne prennent pas leurs responsabilités.
Des violences entre militaires et fidèles chiites auraient fait des centaines de morts au Nigeria. L'ambassade américaine demande une enquête.
Le drame des enlèvements dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ONG Human Rights Watch exprime son inquiétude.
Dans l'année 2015, Human Rights Watch en a documenté au moins 175 personnes enlevées. Ces ravisseurs sont assez violents.
Trêve fragile au Yémen alors que l'ONU tente de rapprocher les protagonistes en vue d'une solution au conflit qui a déjà fait environ 6000 morts en 9 mois.
En visite à Bagdad, le chef du Pentagone, Ash Carter, exhorte les dirigeants irakiens à accélérer la lutte contre les djihadistes.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Réaction à Bangui au lendemain de la proclamation d'une nouvelle république dans le nord-est de la Centrafrique par Noureddine Adam, chef d'un groupe armé. Ce matin, des habitants du PK5, quartier musulman de la capitale, ont marché pour protester contre ce projet et revendiquer en même temps le départ du PK5 de certains éléments qu'ils jugent indésirables. On fait le point avec Freeman Sipila.
C'est un véritable ras-le-bol exprimé par les habitants de PK5 venus remettre aux responsables de la MINUSCA au siège de la mission onusienne un mémorandum à l'issue d'une marche pacifique. Sur des banderoles, les manifestants réclament le départ des principaux leaders du groupe armé responsable des violences qui ont émaillé le référendum constitutionnel du 13 décembre dans le PK5.
Liberté !
Scandant la liberté, les manifestants menacent de se mesurer à ces hommes en armes si les forces internationales ne prennent pas leurs responsabilités. Mohamed Fadoul Ali, responsable du groupe d'autodéfense du PK5.
Nous demandons à la force internationale d'arrêter ces extrémistes, ces ennemis de la paix.
Après la Renaissance, l'hymne national centrafricain chanté, les mécontents regagnent le PK5, preuve désormais d'une véritable tension dans l'air dans la capitale centrafricaine.
Liberté !
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Affrontement entre l'armée et les chiites dans le nord du Nigeria. L'ambassade américaine à Abuja demande une enquête sur les violences qui auraient fait des centaines de morts. Une vidéo postée sur YouTube montre une confrontation présumée entre l'armée et des membres du mouvement islamique pour le Nigeria à Zaria, des faits qui remonteraient à samedi. Les soldats sont vus en train de se disputer avec des civils, bloquant une autoroute, exigeant que le convoi du chef de l'armée puisse passer. L'armée estime avoir répondu à une tentative d'assassinat sur le général Buratai.
Et nous restons au Nigeria concernant le procès du leader du mouvement indépendantiste biafrais, Namdi Kanu. Un tribunal d'Abuja a prononcé un non-lieu en sa faveur. Inculpé pour conspiration et appartenance à une organisation illégale, les charges retenues à son encontre ont été abandonnées. Il faut dire que son arrestation en octobre avait provoqué une vague de protestations dans le sud-est du Nigeria. Namdi Kanu demeure toutefois en détention car il est aussi sous le coup d'une enquête pour terrorisme et financement d'organisations terroristes.
Affaire Hissène Abré, le procès de l'ex-président tchadien, jugé à Dakar par un tribunal spécial africain pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, a été suspendu jusqu'au 8 février. Les plaidoiries débuteront donc à cette date, rapporte l'AFP, citant cette juridiction. La répression durant le régime d'Hissène Abré a fait 40 000 morts, selon les estimations d'une commission d'enquête tchadienne. Il encourt jusqu'aux travaux forcés à perpétuité.
En Afrique du Sud, des manifestations ont eu lieu dans les principales villes pour demander la démission du président Jacob Zuma. Idriss Fall.
Dans toutes les grandes villes sud-africaines, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth et Cape Town, des milliers de manifestants sont sortis dans les rues. Les protestataires accusent le chef de l'État de mettre en péril l'économie pour servir ses intérêts personnels. L'opposition, la société civile, le monde des affaires et de simples citoyens ont battu le pavé avec une poignée de vétérans respectés de l'ANC, dont la militante anti-apartheid Barbara Hogan, la femme d'Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de Nelson Mandela. Sur les pancartes, on pouvait lire « Zuma doit tomber ». Jacob Zuma, qui traîne déjà l'affaire de sa résidence privée, a changé deux fois de ministre des Finances en une semaine. Cela a entraîné une panique sur les marchés. Le rand de la monnaie nationale est au plus bas. L'économie est au ralenti alors que le chômage est à 25%. Malgré tout, l'ANC, le parti au pouvoir, fait bloc derrière M. Zuma alors que les élections locales sont prévues dans quelques mois.
Au Niger,
des informations circulent depuis hier sur une vague d'arrestations parmi les officiers de l'armée. On parle notamment de l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air sous la transition militaire du général Salou Djibo. D'autres précisions avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est le site d'information Actu Niger qui a fait l'annonce. L'inspecteur général des armées et de la gendarmerie du Niger, le général Souleymane Salou, est depuis mardi matin interpellé par la gendarmerie. Le site dit ignorer les raisons et ajoute qu'avec le général Souleymane, d'autres officiers de l'armée nigérienne sont aussi interpellés. 48 heures après, l'information n'est démentie par aucune source officielle. Elle fait depuis lors le chou gras des internautes sur les réseaux sociaux notamment, d'aucuns avançant qu'il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Souleymane Salou, général de l'armée de l'air, est un proche de l'ancien chef de l'État Djibo Salou, qui a renversé le 18 février 2010 le régime du président Tanja Mamadou. Abdelrazak Idrissa à Maradi pour VOA Afrique.
Crise libyenne, un accord sur un gouvernement d'union doit être signé demain au Maroc, mais pour le président du Parlement non reconnu par la communauté internationale, les parlementaires devront signer le texte parrainé par l'ONU, n'ont aucune légitimité. Deux parlements libyens, rappelons-le, se disputent le pouvoir depuis plus d'un an en Libye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire américain à la Défense a souligné aujourd'hui à Bagdad la volonté des États-Unis et de leurs partenaires de la coalition d'accélérer les efforts pour vaincre le groupe État islamique. Ashton Carter a tenu ses propos à l'issue de ses entretiens avec le premier ministre irakien Haider al-Abadi et son homologue Khaled al-Ubaiti. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Le chef du Pentagone a dit avoir discuté avec ses interlocuteurs de l'importance de bâtir sur les acquis pour compléter la reprise de Ramadi et ensuite de Mossoul aussitôt que possible. Les États-Unis, a-t-il assuré, sont prêts à faire plus dans cette mission en coopération avec les forces de sécurité irakiennes. Quant au bureau du Premier ministre Abadi, il a annoncé que les discussions ont porté sur les moyens d'améliorer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'armement et de l'entraînement. M. Carter s'est également entretenu avec le général Sean McFarlane, chargé de la lutte contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Les États-Unis usent depuis août 2014 de frappes aériennes en appui aux forces irakiennes, mais écartent l'envoi éventuel de troupes terrestres. Mais les djihadistes continuent de contrôler de larges pans de territoire dans le nord et l'ouest de l'Irak et les tentatives de reprendre Mossoul et Ramadi ont été bloquées.
Un calme précaire, ponctué d'incidents isolés, régnait aujourd'hui au Yémen, au deuxième jour d'un cessez-le-feu et de pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU en Suisse. Jacques Aristide.
Un rare échange de prisonniers de guerre pourrait intervenir aujourd'hui à la faveur d'une médiation tribale, d'après l'AFP. Les forces loyalistes et les rebelles chiites, houthis, gardaient leur position dans la province de Taiz et dans la région de Bab al-Mandeb, où des affrontements sporadiques étaient signalés, selon des sources militaires pro-gouvernementales. La coalition arabe qui soutient le gouvernement a annoncé ce mercredi la mort d'un soldat saoudien dans la région de Najran. Malgré ces incidents, les belligérants ne semblaient pas remettre en cause la trêve de 7 jours décrétée hier à la demande du président Abd Rabbo Mansour Hadi au moment où se poursuivaient des pourparlers de paix en Suisse, loin des caméras. L'Arabie Saoudite, qui pilote la coalition Yémen, est désormais encline à favoriser un règlement politique de la crise.
Au moins 2 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau transportant plus de 100 migrants des côtes turques vers l'île grecque de Lesbos. C'est ce que rapporte l'AFP citant la police portuaire grecque. Les opérations de sauvetage se poursuivent en début d'après-midi.
Le gouvernement jordanien a rapatrié aujourd'hui par avion 800 demandeurs d'asile soudanais qui réclamaient le statut de réfugiés en Jordanie. Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Momani, a précisé que ces Soudanais n'avaient pas droit au statut de réfugiés. étant venu en Jordanie pour des soins.
Enquête sur les attentats de Paris. Les autorités autrichiennes ont arrêté 2 personnes soupçonnées de lien avec ces attaques qui ont fait 130 morts à Paris le 13 novembre. Les 2 prévenus ont été appréhendés dans un foyer de migrants de Salzbourg, dans l'ouest de l'Autriche. C'est ce qu'a annoncé le parquet autrichien qui, selon l'AFP, a refusé de confirmer la nationalité des suspects.
Le président cubain Raoul Castro est attendu à Paris en février, a indiqué aujourd'hui le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, sans plus de précision sur la nature de cette visite. François Hollande était à Cuba en mai dernier. À quand la visite de Barack Obama à Cuba ? Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Au Togo, le groupe mauricien Kalian est en train d'investir 12 millions de dollars, plus de 11 millions d'euros, pour la construction d'une ferme de production à Badja, à 40 km au nord de Lomé, et à Ando, 10 km plus au nord, avec l'accord du chef de l'État, du gouvernement, des élus et des chefs traditionnels locaux. Poulet de chair, mais aussi céréales, production de fumier, transformation des résidus. La nouvelle ferme devrait générer quelque 300 emplois directs. Le groupe vise une production annuelle de 24 millions d'œufs et de 4 500 tonnes de viande, de volaille, prêtes à consommer d'ici 5 ans, ce qui devrait permettre de réduire de moitié les importations de poulet de chair du pays. Au Mozambique, la dette publique devrait s'envoler pour atteindre 62% du PIB à la fin de l'année, contre 38% en 2011, selon l'agence de notation Fitch. Et le pays a dû demander pour la première fois en 10 ans un prêt au FMI. En cause, la crise des matières premières et des investissements publics hasardeux. Le métical, la monnaie locale, a enregistré une chute historique face au dollar, plus de 40%. Et enfin la Suisse qui publie pour la première fois aujourd'hui sur un site internet la liste des comptes bancaires en déshérence pour permettre aux éventuels héritiers de se manifester. Ces comptes sur lesquels aucun mouvement n'a été constaté depuis 60 ans représentent un total d'avoir de près de 44 millions de francs suisses, soit 40 millions d'euros. Les héritiers éventuels ont entre 1 et 5 ans pour se manifester.
La Minute Éco, merci Anastasie.
Et pour les sports, on a en studio Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Gabi.
Alors je sais que tu vas parler de football. Et qu'en est-il du Mondial des clubs au Japon ?
La finale, c'est ce dimanche, Gabi. Le club argentin de River Plate s'est qualifié aujourd'hui en éliminant les Japonais de Sanfrecce Hiroshima, un but à zéro. Et River Plate attend en finale le vainqueur de l'autre demi-finale prévue demain entre le club chinois de Guangzhou, Evergrande, et le FC Barcelone, champion d'Europe en titre et favori de la compétition. Entre-temps, le TP Mazembe a plié bagage après la défaite contre CF America 1-2 pour la 5e place.
Michel Platini qui boycotte la justice interne de la FIFA.
L'ancien triple ballon d'or refuse, dit-il, d'être le dindon de la farce d'un verdict déjà annoncé dans la presse. Platini a pris au mot les propos d'Andreas Bantel, porte-parole de la chambre d'instruction de la FIFA, qui a déclaré vendredi dernier, je cite, « Platini sera certainement suspendu pour plusieurs années ». La défense considère qu'il s'agit de mépris de la présomption d'innocence. C'est pour cette raison, Gabi, qu'il a décidé de ne pas comparaître devant cette juridiction interne.
Et 2 inculpés dans le scandale de corruption de la FIFA devant la justice américaine.
Oui, l'ancien président de la fédération hondurienne, Rafael Caeiras, et Juan Ángel Napout, vice-président suspendu de la FIFA, ont plaidé non coupable hier à New York. Quelques heures après leur arrivée aux États-Unis, Rafael a été maintenu en détention, tandis que Juan Ángel a obtenu sa remise en liberté contre une caution de 20 millions de dollars.
Basket professionnel, résultat et classement du championnat nord-américain, la NBA.
Les Cleveland Cavaliers ont dominé les Boston Celtics. LeBron James a fini meilleur marqueur du match. Il faut aussi saluer le retour au mérité de Kevin Love qui a marqué 20 points. Et Cleveland occupe la 1re place, Chicago 2e place dans la conférence Est. Golden State, San Antonio se suivent dans la conférence Ouest. Et les Milwaukee Bucks ont mis fin à des victoires successives de Golden State, Gabi.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. On commence au Burundi.
Après les affrontements de vendredi à Bujumbura, qui ont fait 90 morts, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, accuse l'ancienne puissance coloniale belge d'avoir soutenu les insurgés. Idriss Fall a joint Alain Nyamitwe, ministre burundais des Affaires étrangères.
Vous avez posé la question de savoir pourquoi la levée de boucliers contre la Belgique. Je crois d'abord savoir qu'il s'agit d'une déclaration du parti au pouvoir, au sein des DPD, qui s'insurge contre des déclarations tapageuses de la part de la Belgique en premier lieu, contre le gouvernement du Burundi, qui en réalité ne se justifie pas. Nous avons l'impression parfois que ces déclarations sont préméditées. Il s'agit peut-être d'une occasion de laquelle ils ont profité pour pouvoir lancer leur déclaration de demande d'intervention militaire, etc. Alors qu'ils n'ont pas osé critiquer à sa juste mesure l'attaque ennemie contre les institutions de la République du Burundi.
Mais dans le même temps, vous poursuivez des discussions avec l'Union européenne à Bruxelles, non?
Non, on a fait cette consultation seulement le 8 décembre. Nous continuons bien sûr notre dialogue avec l'Union européenne sur toute une série de questions qui n'ont pas encore aujourd'hui trouver de satisfaction des deux côtés. Notre objectif, c'est de parvenir à améliorer davantage les rapports bons qui existent encore aujourd'hui entre le Burundi et l'Union européenne, malgré peut-être les nuages qu'on a pu observer ces derniers temps, suite aux positions prises par l'Union européenne à la suite des décisions politiques souveraines prises par le Burundi et par le peuple burundais.
Mais des voix s'élèvent, notamment Barack Obama, Ban Ki-moon, le Conseil de sécurité, pour que les Burundais puissent discuter entre eux. Qu'est-ce qui est fait pour engager des discussions avec les Burundais?
Non, ce que nous avons dit et que nous disons, c'est que le dialogue est une réalité sur laquelle nous sommes tous d'accord. Je pense qu'il n'y a pas une seule voix politique au Burundi qui dit qu'elle est opposée au dialogue. Il y a quand même, par contre, un malentendu, il faut que je le dise, sur les modalités de ce dialogue. Si dialogue signifie que certains pays, que je ne cite pas ici, soutiennent une catégorie d'opposants, les mettent dans une plateforme et qui reviennent vers nous en disant « vous allez négocier avec cette plateforme-là », alors je ne suis pas certain que ce serait la voie royale. Par contre, si on nous dit vous devez continuer de parler, d'engager tout le monde, tous les citoyens qui souhaiteraient le faire dans un débat politique sur les questions de fond, je ne vois pas comment on pourrait s'y opposer. Soit dit en passant, nous estimons que les questions de gouvernance, les questions politiques, les questions de constitution ne sont pas l'apanage d'une poignée d'individus qui sont des chouchous de certains partenaires.
Alain Nyamitwe, ministre burundais des Affaires étrangères.
Jacques Aristide avec vous, un Washington Forum en deux temps ce jeudi, la Centrafrique d'abord. Après un référendum constitutionnel dans la violence, la RCA est-elle prête pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre ? Le Burundi ensuite, après l'attaque contre trois camps militaires qui a mené à l'opération de nettoyage du régime de Bujumbura, le Burundi est-il réduit à une répression aveugle et sanglante? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Human Rights Watch dénonce le fléau des enlèvements en République démocratique du Congo. L'ONG s'inquiète de la hausse du nombre de cas d'enlèvements, en très grande majorité dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Pour Human Rights Watch, la hausse alarmante du nombre de kidnappings constitue une grave menace pour la population de l'Est de la RDC. Nicolas Pinault a joint Annick Van Woudenberg, directrice adjointe pour l'Afrique, à Human Rights Watch.
Dans l'année 2015, Human Rights Watch en a documenté au moins 175 personnes enlevées, la plupart par des anciens membres ou des membres actuels des groupes armés qui continuent d'être à l'est de la RDC. Et en fait, le problème vraiment, c'est que ces ravisseurs sont assez violents contre les otages et demandent immédiatement de leur famille ou de leur employeur de payer des rançons. Donc, c'est des cas des enlèvements qui augmente et les ravisseurs demandent toujours beaucoup de l'argent pour ces otages, donc entre 200 dollars ou 30 000 dollars pour les otages. Nous connaissons que le montant payé était bien inférieur, mais c'est un problème qui augmente et c'est un problème réel pour la population, spécifiquement de Rutshuru, mais aussi de l'est du Congo.
Qui sont ces preneurs d'otages?
Bon, en fait, c'est plusieurs de groupes différents, mais c'est des membres actuels et anciens des groupes armés qui continuent les groupes armés comme les anciens Mai Mai, comme plusieurs d'autres différents groupes. Mais les choses qui sont claires, que c'est des hommes bien armés, c'est des hommes avec uniforme et c'est des gens connus de temps en temps par les otages. Donc, c'est des gens qui continuent de causer des problèmes. Peut-être aussi parce que le programme de démobilisation en RDC ne travaille pas vraiment. Ce n'est pas un programme qui marche. Donc, c'est des gens qui continuent à chercher l'argent et qui continuent à menacer la population.
Est-ce que les autorités congolaises répondent efficacement à cette menace?
Bon, c'est sûr que les autorités sont aussi saisies de la situation. La réalité, c'est que les membres de famille de ces otages ne veulent pas aller à les autorités pour leur assister parce qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance à la police ou à les services militaires. Donc, la plupart n'informent pas les autorités quand leurs membres de famille sont enlevés. Pour des gens qui ont essayé de contacter la police, je me souviens d'une cas où un maire a approché un membre de la police quand sa fille était enlevée et le policier a dit « allez payer à la mère ». Donc il n'y a pas beaucoup d'assistance de les autorités. Donc Human Rights Watch, maintenant nous demandons à les autorités de créer une unité de police spéciale chargée de lutter contre cette menace. C'est quelque chose qui est important et qui doit mettre en place en toute urgence.
Annick Van Woudenberg, directrice adjointe pour l'Afrique à Human Rights Watch.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
À court de moyens pour empêcher le piratage de leurs œuvres, les musiciens de Bamako font appel aux téléchargeurs. Ces jeunes gens installés le long des rues qui, pour une bouchée de pain, fournissent aux clients les fichiers des morceaux musicaux à la mode. De la capitale malienne, voici le reportage de notre envoyée spéciale, Katharina Oich, présenté par Lionel Gaïma.
Lorsque Sidiki Diabaté, fils du célèbre maître de la kora Toumani Diabaté, a voulu promouvoir son dernier album, il ne s'est pas dérangé à contacter la radio ou la télé, mais il a plutôt envoyé son manager chez les téléchargeurs de la rue Fankele Diara.
C'est bon. Ça, c'est bon.
Penchés sur leurs ordinateurs portables, ces jeunes gens transfèrent de la musique à des téléphones portables ou à des clés USB contre la modique somme de 25 francs CFA par morceau. Sidiki est l'artiste le plus demandé. Aux heures creuses, la musique de Sidiki Diabaté peut facilement attirer des dizaines de clients. Le téléchargeur Aldouseini Balo explique.
Ouais, bon, ils savent bien que vraiment ici, c'est comme un carrefour. C'est l'endroit où les gens se rencontrent. Donc, c'est facile aussi de trouver son son pour distribuer ça à la population. Parce qu'il veut que son nom se lance. Il se connaît sur le plan national, soit le plan international même. Donc, c'est là qu'il fait ça.
Les fréquents délestages et une connexion Internet intermittente se sont combinés pour créer un créneau pour les jeunes mordus de la technologie, comme Aboubacar Koulibaly.
Bon, ça dit, les chansons qui sont en mode, on sait. On connaît les chansons qui font bouger la jeunesse. On sait, parce que quand les gens viennent chez moi, ils me demandent il y a quelle nouveauté. Bon, je dis il y a ça, il y a ça.
Le rap malien est la musique la plus demandée par les clients. L'Internet pousse l'industrie musicale africaine vers de nouveaux horizons, transformant les compagnies de téléphonie mobile en nouveaux labels musicaux. C'est ainsi que le rappeur malien Milmon a récemment signé un accord lucratif avec la compagnie Orange Mali. Ces nouvelles compositions sont exclusivement vendues par cette compagnie, payables à travers le système de transfert de fonds Orange Money. Tous les artistes ne sont pas contents de voir les téléchargeurs vendre leurs œuvres en bordure de rue, surtout que ces derniers gardent les profits pour eux-mêmes. De nouveau, le téléchargeur Aboubakar Koulibaly.
Bon, même si ce n'est pas moi, ils savent que la musique quand même, ça est sur le net quand même, tout le monde peut l'avoir.
Pour sa part, la Fédération malienne rencontre d'énormes difficultés dans la lutte contre le piratage. Pendant ce temps, les labels musicaux établis comme Mali Cassette se démènent pour faire face à la compétition des nouvelles technologies. Du coup, les musiciens recourent à l'animation de mariages, quelques rares concerts et, pour quelques chanceux, des tournées internationales afin de joindre les deux bouts.
Merci Lionel Gaïma. Dernier débat de l'année entre les candidats à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Pas de cadeau, surtout entre Donald Trump, en tête dans les sondages à l'échelle nationale, et les autres qui essaient de le rattraper.
We're not talking about religion, we're talking about security. Our country is out of control.
Guerre contre les djihadistes, sécurité nationale et immigration ont dominé ce cinquième débat à Las Vegas, mais avant d'entrer dans le fond, parlons de la forme, Idrissa Seloudia.
Oui, on s'attendait à des étincelles entre Donald Trump, le favori, et Ted Cruz, qui mène actuellement dans l'Iowa. L'Iowa où aura lieu la première consultation électorale de 2016. Mais, comment dirais-je, Donald Trump n'a pas mordu à l'hameçon quand on lui a dit que Cruz l'avait accusé en privé d'être sans jugeote, tu vois, etc. Alors donc, il n'a pas mordu à l'hameçon. Mais c'était en réalité beaucoup plus dur entre Donald Trump et l'ancien gouverneur de la Floride, Jeb Bush, qui a fait comprendre à Donald Trump « Vous ne pouvez pas accéder à la présidence en passant tout votre temps à insulter les gens. Il faut une stratégie sérieuse. »
This is a tough business to run for president.
Oh, no, you're a tough guy, Jeb.
And we need to have a leader that is
real tough.
You're never going to be president of the United States by insulting your way to the presidency.
Let's see, I'm at 42 and you're at
32. Des étincelles définitivement hier soir à Las Vegas. Pourtant, je m'attendais à voir un face-à-face, un duel entre Trump et Cruz, surtout que Ted Cruz maintenant est en tête dans l'Iowa, le premier État à voter.
Oui, et je l'ai dit, on a essayé de générer en quelque sorte ou de créer cette tension entre les deux, ils n'ont pas mordu à l'hameçon. Ils ont préféré dire « Ah, mais non, il est bien, il est formidable, c'est mon ami. »
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be fighting and killing ISIS where they are.
La question de la sécurité et la question du terrorisme, des points qui ont dominé le débat aussi.
Oui, surtout après les attentats de Paris et ce qui vient de se passer il n'y a pas si longtemps à San Bernardino en Californie. Alors donc, il y a une certaine peur que l'on accuse Monsieur Trump d'exploiter à des fins politiques pour se faire passer pour l'homme qui fera face et qui va défaire le terrorisme. Et comme vous l'avez entendu, n'est-ce pas, Monsieur Ted Cruz va dire qu'il va utiliser des bombardements massifs pour défaire, comment dirais-je, le groupe État islamique. Et on lui a fait comprendre qu'il y avait des populations civiles sur place. Alors qu'est-ce qu'il allait faire? Les tuer aussi? Et il n'a pas donné une réponse très claire à ce sujet, mais on a l'impression qu'il n'est pas très au courant de comment les choses se passent, parce que le groupe État islamique utilise ses populations civiles comme des boucliers humains. Alors, on a entendu Donald Trump aussi parler, n'est-ce pas, des familles des terroristes qu'il faudrait tuer aussi, on lui a fait comprendre. Mais comment est-ce que vous allez tuer des innocents dans ce genre? Il a dit, non mais écoutez, si ils peuvent tuer nos gens, nous pouvons aussi tuer leurs familles.
Un discours qui pourrait peut-être satisfaire ce que nous appelons la base du Parti républicain pour les primaires, mais qui sera difficile à avaler lors des élections générales.
Oui, ça sera très difficile, d'autant, mais ils ont déjà commencé à attaquer Hillary Clinton, qui sera la candidate des démocrates probablement.
Ça, c'est une autre histoire. Merci Idrissa Seloudia.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph, présentation Morgan Guiriec et Chérubin Dorsil, à la console Tian Wan.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook. Et bien sûr, on est ensemble 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.